Décryptualité, semaine 24. Salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Bienvenue Mag, ça faisait un bout de temps. Qu'a-t-on au sommaire ?
Vous me manquiez. Allez, on commence par Global Security Mag. L'Inagora remporte l'appel d'offres de la centrale d'achat de l'informatique hospitalière par Marc Jacob.
Donc, ce sont des appels d'offres de marché public. C'est un truc un peu important. Et effectivement, on savait que l'Inagora, donc c'est une société de logiciels libres, était déjà pas trop mal implantée au niveau des institutions françaises. Ils avaient travaillé pour, à une autre époque, pour l'Assemblée nationale. On peut attendre que du bien parce que ça reste du logiciel libre et une société qui est connue pour ça. Même si des fois, il y a des difficultés, hein, nécessairement. Et puis là, bah, on va espérer qu'ils vont faire un gros travail parce que les hôpitaux ont déjà été pas mal attaqués sur l'informatique avec des rançons logiciels. Ils ont intérêt à se préparer, les gars.
Next Impact, géant du net, un état des lieux des causes et des conséquences de leur prépondérance. C'est par Sébastien Gavois.
Alors, c'est pas un sujet nouveau. Il y a un rapport parlementaire qui remonte un peu tout ça. Oui, les GAFAM sont trop importants et effectivement, le vieux continent n'est pas à la hauteur, donc il faut y travailler. Ça reste compliqué, il y a des choix qui sont un peu lourds, un peu nuls de nos gouvernants, qui n'encouragent pas assez le logiciel libre notamment, donc il faut y travailler.
Next Impact, copie privée. Les députés adoptent la redevance sur les tablettes et les téléphones reconditionnés par la rédaction.
Une grosse nullité de nos gouvernants là aussi. La copie privée, donc c'est un truc un peu compliqué où on vous fait payer chaque fois que vous avez un disque dur ou quelque chose qui peut stocker des œuvres de l'esprit.
Pour financer la copie qu'on n'a pas le droit de faire, en fait, c'est ça?
Oui, alors soi-disant, c'est une compensation, une sorte de rémunération, c'est pas tout à fait une taxe. Donc c'est un peu compliqué déjà, mais surtout, c'est que là, ils ont décidé, malgré le fait qu'ils étaient en train de parler d'écologie, d'environnement, ils ont décidé de mettre cette taxe une deuxième fois sur les matériels qui sont de deuxième main. Donc tout ce qui est reconditionné, souvent avec du logiciel libre, justement, et qui est revendu ou redonné. C'était déjà un peu ridicule de le taxer la première fois dans plein de cas, parce qu'il y a plein de cas où on a des disques durs pour des entreprises. C'était pas destiné à utiliser des œuvres de l'esprit. Mais là, une deuxième fois, c'est anti-écologique, et en plus, c'est cher, parce que c'est du genre 14 euros pour un téléphone portable reconditionné, donc c'est quand même ridicule.
Alors, on rappelle qu'en théorie, les entreprises peuvent se faire rembourser, sauf que dans la pratique, c'est extrêmement compliqué, donc personne ne le fait. Et que nous avons la taxe pour copie privée la plus élevée d'Europe, et qui vient donc encore de s'accroître. Et donc il y a des gens qui vivent très confortablement là-dessus.
L'humanité.fr, données personnelles, le pass sanitaire sur le grill, par Lola Scandella.
Alors, ce sont nos amis de La Quadrature du Net qui attaquent un petit peu ce qui se passe sur ce fameux pass sanitaire. Et globalement, la gestion des données des citoyens, ça reste un peu compliqué.
Et le dernier article, qui va aussi être notre sujet du soir, Le monde informatique, Python et open source, l'avenir de la data science sans Excel, par Matt Azet.
Bon, allez, on définit vite fait data science. C'est la science des data. Allez, ça vous aide?
Merci d'être venu.
Donc, en gros, c'est très, très à la mode. Donc, ça parle aussi de big data et puis globalement de statistiques, de consolidation d'informations et puis de temps en temps d'open data. Là, on aime mieux. Donc, toutes ces sciences de l'information, c'est quelque chose qui évolue et qui apparaît maintenant de manière très très forte. Et on sait que c'est utile pour les maladies, c'est utile pour la santé en général, l'économie, la finance, l'éducation. En fait, dès qu'on a des grands groupes, il faut creuser avec des grands nombres. Et donc, c'est bien pratique. Et dans ce contexte-là, que remonte l'article dans une certaine mesure, finalement, il y a un outil qui était incontournable il n'y a encore pas si longtemps, c'était Excel.
Le logiciel Tableur qui faisait des calculs.
Il les fait toujours, ça reste un des logiciels phares de la bureautique. C'est un des logiciels phares de Microsoft, qui n'est pas mal fait en fait, qui est même plutôt bien comme outil.
L'idée c'est aussi de parler de bureautique en général et la façon dont la bureautique va s'articuler quand on arrive dans les cas limites.
Moi je pourrais dire qu'il y a une super alternative à Excel, c'est LibreOffice, LibreOffice Calc, qui est extraordinaire, qui fait la même chose, qui est sans arrêt amélioré et que je conseille aux gens d'utiliser.
Oui, c'est pas mal, mais que ce soit pour Excel, pour LibreOffice Calc, et puis même pour les traitements de texte en général, moi je remarque, et je suis soutenu, il y a un YouTuber qui a fait toute une vidéo là-dessus que j'aime bien, DistroTube, c'est un YouTuber anglophone, mais ça n'empêche, lui il considère que ces outils sont les outils du diable, que ce sont des outils qui sont généralement pas nécessaires, dans lesquels la plupart des utilisateurs se perdent, on se perd dans les détails, dans des incompréhensions et dans des petits trucs où on va améliorer la forme et ne pas se concentrer sur le fond. Et que finalement, c'est pas ce qu'il faut utiliser, c'est pas des outils comme la bureautique, mais ce sont des outils plus simples, notamment un éditeur de texte, donc quelque chose dans lequel on va à la ligne, vraiment au kilomètre, écrire son texte sans se préoccuper justement de la mise en forme.
Donc ça, c'est pour toute la partie textuelle. Là, dans l'article, on parle data science, donc de science des données. Et on comprend que quand on a des gros volumes de données, que les données sont assez complexes, etc., travailler avec un tableur, Excel ou un autre, peu importe au final, ça peut être tout à fait inadapté et qu'on a des moyens plus puissants, plus efficaces. Une des choses que met en avant l'auteur, qui est mise en avant là-dedans, et qui est ici l'éditeur d'une solution plus intelligente qui s'appuie sur Python, c'est aussi de dire que grâce à un langage, les utilisateurs ont beaucoup plus de possibilités de créativité, et donc de trouver des nouvelles façons de faire, et que l'éditeur va être en dialogue avec eux, notamment Python c'est du libre, et que du coup on sort du carcan d'un outil. C'est effectivement intéressant de se dire que quand on arrive dans des cas limites, puisse y avoir des outils plus intéressants, plus performants, que ce soit dans ce qui est fait avec les tableurs ou ce qui est fait avec du traitement texte. Mais pour moi, il y a une première barrière, c'est que les gens, moi le premier, ont appris à se servir de ces outils-là et c'est leur habitude.
Ce qui serait merveilleux, c'est que les gens utilisent le bon outil pour faire la bonne chose. Typiquement, quand je vois certaines de mes collègues qui vont ouvrir un traitement texte pour dessiner des triangles, je me dis non les filles, stop, vous avez des logiciels vectoriels qui peuvent vous permettre de faire des dessins. Mais on a tendance à toujours ouvrir le logiciel qu'on maîtrise, même si c'est pas pour faire les bonnes choses.
Alors, j'ai constaté ça en entreprise. J'ai vu des fichiers Excel qui étaient utilisés au-delà des capacités habituelles d'un tableur et qui contenaient de véritables bases de données lourdes, complexes, avec des calculs très aboutis et même des macros, des fonctions qui étaient développées. Alors, je sais plus, il y a du basique, il y a différents langages qui sont acceptés par la plupart des tableurs. Et en fait, ça devient bah, des monstres de complexité qui nécessitent vraiment du temps complet pour une personne souvent. Et dans les entreprises, il y a des entreprises qui vont agréger des fichiers ensemble et dépendent d'elles des points qui sont bien trop complexes.
Moi, je connais un informaticien qui m'a fait un logiciel de caisse et de traitement de stock avec LibreCalc, alors qu'il existe des logiciels de caisse qui sont très bien faits.
Oui, tu parles de moi. Mais c'était un cas exceptionnel. C'était pour que ça fonctionne sur tablette. C'était de manière déconnectée. C'était un cas spécial, madame. Et ça n'embarquait pas toute la base de données de ta librairie. En fait, c'est une des limites. C'est que dès qu'on commence à vouloir embarquer des dizaines de milliers de références, ça va exploser. On n'arrivera plus à gérer. L'outil va vraiment s'éclater. Et c'est pareil pour un traitement texte. J'ai entendu parler de Thésard, qui écrivait des longs documents de centaines de pages, très complexes, avec des formules mathématiques, et qui explosait les traitements texte. C'est-à-dire que le traitement texte, au bout d'un moment, il rencontre des bugs de traitement, et il n'arrive plus à fonctionner, ça prend trop de temps de le faire tourner, et il n'arrive plus même, parfois, à réouvrir le document devient inutilisable. Donc, quand on est un thésard, ça peut être un peu rageant.
Alors, c'est quelque chose qu'on rencontre aussi quand on écrit de la doc, ce qui m'est arrivé. Donc, en gros, on rédige le manuel d'utilisation d'un logiciel, par exemple, mais ça peut être n'importe quoi d'autre.
Le truc qui n'est jamais lu ?
C'est ça, le truc que personne ne lit, effectivement. Mais c'est important de l'avoir pour dire au client, RTFM, read the fucking manual. Mais voilà, donc c'est des fichiers qui évoluent avec le temps, puisqu'évidemment, le logiciel, il évolue normalement très régulièrement. Donc, il y a des mises à jour, on va mettre des captures d'écran, on va mettre des petites flèches sur les captures d'écran, etc. Donc, ça devient des fichiers compliqués qui sont édités des centaines de fois. Et donc, du coup, effectivement, le fait que ce fichier explose à un moment parce qu'il prend en charge énormément de fonctionnalités, on a fait plein de modifs, etc. et qu'à un moment, on n'arrive plus à l'ouvrir, c'est un risque qui existe. Du côté des tableurs, il y a pour moi, au-delà de l'habitude d'utilisation, il y a quelque chose qui joue en faveur de l'utilisation des tableurs. C'est que quand on n'est pas informaticien et qu'on a des problèmes à régler, c'est un outil qu'on peut manipuler. Alors qu'en fait, les solutions typiquement Python, il faut savoir coder, quoi. Ça reste du code, même si c'est peut-être pas le plus compliqué.
Tu parlais de thèse tout à l'heure. Moi, je connais un thésard qui a fait toute sa thèse sous LaTeX, qui était très content parce que bah, du coup, la forme a été générée automatiquement. Et il a pondu sa thèse et il ne l'a pas perdue. Et c'était merveilleux, c'était beaucoup mieux que fait sous des traitements texte habituels. N'empêche que pour maîtriser la tech, bah faut s'y connaître. C'est pas une petite libraire qui va pouvoir utiliser la tech du jour au lendemain.
Dans le domaine du boulot, moi, ça m'est arrivé un paquet de fois de devoir gérer des problèmes là, maintenant, tout de suite, et donc d'utiliser des tableurs pour ça, en ayant conscience que c'était pas la meilleure solution, mais c'était la seule que j'avais sous la main. Et c'était la seule qui me permettait d'être assez autonome. Et Manu, t'es pas le premier informaticien à dire « Ah, c'est de la merde, il faut faire des scripts, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Sauf que quand t'es dans un boulot, si tu dépends de quelqu'un d'autre qui, lui, n'a pas la pression que tu subis, qui en a rien à foutre, qui va t'écouter d'une oreille parce qu'il a d'autres choses à faire, etc., tu peux être certain que ça va te prendre des lustres avant d'avoir quelque chose qui marche et ce sera trop tard.
Manu, il a tendance à dire qu'il faut faire du CSS et compagnie. Et donc, il nous a fait un super site internet à la librairie, mais il a quand même mis WYSIWYG. Il va falloir que tu traduises WYSIWYG.
What you see is what you get.
Voilà, en gros, c'est des petites touches qui permettent de mettre en gras, en italique, de rentrer du code.
C'est ce qu'on connaît
code.
Tous, hein, c'est qui permet d'éditer la forme directement dans le texte.
Voilà, et c'est vrai que lui, il peut faire ça directement en code, enfin dans le code source, mais que nous, on a quand même besoin d'avoir un clicodrome personnalisé.
Alors, c'est une chose amusante, c'est qu'il y a un intermédiaire que plein de gens ont appris à maîtriser, ce sont les syntaxes wiki. C'était une évolution des années 90 et des années 2000. Il y a plein de gens qui sont mis à faire des syntaxes wiki. Donc, en gros, on n'a plus besoin de sélectionner un mot et de dire avec un bouton « je le mets en gras ». Non, on se met un petit peu avant le mot, on met deux étoiles, on se met après le mot, on met deux étoiles, et ce sera traduit visuellement par un gras. En tout cas, dans certaines syntaxes wiki, parce que dans d'autres syntaxes wiki, ça c'est une des problématiques, ce sera fait d'une autre manière.
Genre supérieur, i, inférieur, non, je crois que c'est l'inverse, mais voilà, oui.
Ça, c'est le HTML.
Mais
non,
c'est
mais
chiant,
ce dont parle Manu, c'est encore plus simple que le HTML. Bon, il y a d'autres trucs comme le textile ou il y en a d'autres.
Le Markdown.
Et effectivement, ça va être juste un caractère devant. Moi, j'ai rédigé une doc dans le boulot en textile, mais j'avais un collègue informaticien qui générait le document derrière. Donc effectivement, j'avais trouvé ça très pratique de travailler sur le textile, déjà parce que chaque chapitre était dans un petit fichier, et tous les fichiers étaient ensuite rattachés à un menu, et donc le document était généré comme ça. Ce qui fait que j'avais pas besoin de me promener dans des pages et des pages de doc, j'ouvrais juste le fichier qui m'intéressait. Voilà, donc du coup, il n'y en avait pas trop à l'écran, il y a effectivement cette séparation, toutes les illustrations étaient des images que je mettais par ailleurs. Et moi, j'avais trouvé ça très pratique, et d'un point de vue boulot, ce qui était intéressant, c'est qu'à partir de cette rédaction-là, mon collègue, il était capable de sortir des pages web pour que les utilisateurs puissent directement dans l'application, c'est une application internet, aller voir la doc, les solutions, et également des fichiers qu'on puisse imprimer et lire.
Oui, mais du coup, ça te crée une dépendance face à ton collègue. C'est-à-dire que s'il y a un bug, s'il y a une parenthèse mal fermée, et ainsi de suite, paf, t'as pas la capacité d'aller le corriger toi-même, et du coup, t'es obligé de faire appel à ton collègue, ce que nous faisons régulièrement avec Manu à la librairie.
Alors, c'est effectivement ce que tu dis est vrai, hein. C'est le problème, c'est qu'on est dépendant. Si tu veux changer l'apparence, aujourd'hui, moi, je connais pas de solution qui permettent d'éditer les styles avec sa souris et son clavier en mode simple. C'est-à-dire qu'on a effectivement plein de langages comme le textile et d'autres qui permettent de rédiger, qui sont pas compliqués à apprendre. Mais je connais pas, mais ça existe peut-être. Mais en tout cas, j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'outil où on puisse éditer le style. Si ce n'est un outil de PAO...
Scribus.
Mais qui est vraiment un outil de PAO pur et dur. Et du coup, on peut se retrouver à faire des choses un peu longues, un peu lourdes, dans lesquelles on n'a pas envie nécessairement de se lancer. Et donc, l'avantage d'un traitement texte, c'est quand même te dire que tu as un outil assez rapide. Dans les alternatives, pour moi, c'est la grosse lacune qu'un utilisateur lambda comme moi ou Mag, on ne peut pas être autonome sur la rédaction et la mise en forme.
Alors, je suis assez d'accord, hein, l'autonomie, c'est une vraie problématique. Hein, et je pense que dans une certaine mesure, c'est le cas aussi avec Python. Mais avec certains fichiers Excel très compliqués, ça va être aussi largement le cas. On sera dépendant de la personne qui l'a mise en place et qui comprend comment ça fonctionne. Parce que ça peut devenir des vrais plats de spaghettis, tous ces outils. Et pour une édition, enfin un traitement de texte, je pense aussi que oui, il faut se baser sur le plus possible des modèles, des templates, on pourrait dire, et ça fonctionne. Bah alors à la fois quand on utilise un éditeur de texte et qu'on écrit son texte au kilomètre, qu'ensuite on va faire manger à un système qui aura un modèle et qui va le présenter de manière uniforme, c'est très pratique parce que souvent on travaille dans le cadre d'une organisation, d'un système. Et dans le cadre d'une organisation, la documentation technique ou autre, on va pouvoir la réutiliser, la réimporter dans d'autres contextes. Et c'est pareil, si on fait une page Wikipédia, la mise en forme de la page Wikipédia n'est pas à notre choix, elle est au choix, effectivement, de toute une équipe, de plein de gens qui sont derrière. Et quand on fait du Wikipédia, certes, on va pouvoir mettre en gras ou en italique, donc ça, les styles en ligne sont importants, mais la forme générale est bien séparée, donc on sépare bien la forme et le fond. Ça a beaucoup d'avantages, mais effectivement, on y perd en autonomie. Si on veut faire une lettre, quelqu'un de sa famille, vite fait, bien fait, un traitement de texte, je pense que ça reste utile. Mais si on veut travailler dans une organisation, une association, une entreprise, dépendre d'un modèle et s'intégrer à un modèle existant, pouvoir faire une page web sous WordPress, quelque chose comme ça, je pense que ça devient pertinent.
On n'a pas parlé de tous les problèmes qu'on rencontre en utilisant la bureautique pour faire la doc ou pour faire ces choses-là, puisqu'il y en a des tonnes, mais je pense que tout le monde les a expérimentés, donc il n'y a pas besoin de s'étendre là-dessus. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un outil où on puisse être autonome de bout en bout pour séparer la forme et le fond. Donc ça arrivera peut-être d'ici la semaine prochaine.
Oui, je vais m'y mettre.
Ou pas.
Bon, à la semaine prochaine.
Ouais, salut tout le monde.
Salut.